make it. My girl,
ladies,
what me want you do?
Tick 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 tock. 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 Tick tick tock.
What me say me do?
Tock 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 tick.
Hey, babies.
Tock 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 tick. Tock 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 tick. Tock 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 tick. Tick.
On commence quand vous voulez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce Cinématalk. Deuxième heure de Cinématalk consacrée au documentaire aujourd'hui, puisqu'on vous l'a dit et on vous le répète, novembre c'est le mois du doc. Sur ce plateau, pour en parler, deux invités, Joseph Gordillo, réalisateur de Brumaire, un documentaire sur le monde de la mine et de l'après, une fois que l'on a fermé le dernier puits. Un documentaire qui l'accompagne en ce moment même dans les salles de la Couronne toulousaine. Il sera ce soir à Mourinx, puis demain à Haute-Rive, dimanche c'est Decazeville, et il finira lundi à Tournefeuille, Utopia. La Utopia de Tournefeuille. Donc quand je dis la Couronne toulousaine, je suis un peu courte, c'est carrément plus vaste que ça. Ma seconde invitée, c'est Emma Farignas, qui est réalisatrice, mais pas seulement, puisqu'elle vient pour me parler de la PIAMP, l'association des producteurs indépendants audiovisuels de Midi-Pyrénées. Et c'est justement la PIAMP qui organise, entre autres choses, la tournée du film Brunner. Voilà pourquoi ces deux invités. Alors, bonjour à tous les deux, déjà, pour commencer.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans cette émission.
Merci.
Et on va commencer par parler de Brumaire, donc ce film documentaire qui est sorti il n'y a pas si longtemps, en juin, que vous avez coécrit ou que tu as coécrit, puisque hors antenne, j'ai commencé par te tutoyer. Je crois qu'on va s'en tenir au tu.
On peut se tutoyer.
Très bien. Que tu as coécrit avec Laetitia Giroux. Un film qui débute avec une phrase, la dernière mine de charbon française a fermé en Lorraine en 2004. Un tout petit peu plus tard, mais juste vraiment en introduction du film, on entend tout ce que les mineurs ont fait de merveilleux, tout le monde a oublié, on les a rangés, mis dans une boîte. Alors justement, ce film Brumaire, à l'origine, il y a une boîte avec des photos qui sont après dans un livre et dans lequel tu as replongé pour l'écriture de ce film.
Oui, c'est ça. En fait, à l'origine, le film Brumaire, c'est d'abord un livre que j'ai réalisé, un livre de photographie que j'ai réalisé il y a 15 ans, pendant que les mines, ce poumon de la Lorraine vivait encore. Pendant qu'il y avait encore des gens qui descendaient à 1000 mètres dans les galeries obscures. Donc j'ai décidé de faire un travail justement sur les hommes et le travail, les hommes et leur environnement. Donc la sueur, les valeurs, le courage, les dangers, le grisou. Donc le livre parlait de ça. Du coup, je me suis retrouvé quelques années plus tard avec un fond photographique de 3000 ou 3500 clichés. Et un jour, je me suis dit, cette matière, il faudra peut-être en faire quelque chose. Donc l'idée part, en effet, de la base, ce sont des photographies. Du coup, on a tenté de malaxer cette matière et d'en faire un film. Donc essayer de faire rentrer le cinéma dans la photographie, c'était un peu le défi.
Et puis, il y a aussi, du coup, autour de... Alors, on comprend le point de départ, c'est ces photos de la mine. Alors bon, tout ça bien entendu, ça échappera complètement à l'auditeur, tout ce travail fabuleux autour de leur, c'est des photos vraiment saisissantes et ce qui est quand même assez impressionnant, c'est que toutes ces images de la mine, vous les rendez vivantes. On a vraiment l'impression que de voir des hommes au travail, de voir des choses bouger, alors que bon, ça bouge pas, hein, c'est bien fixe. Et puis autour de ça, vous construisez un univers qui va aussi évoquer la mine, puisqu'on parle bien de la mine, mais pas seulement, on parle aussi d'une région. On va tout de suite écouter la bande-annonce et puis après on va revenir sur le procédé de fabrication, parce que je trouve qu'il est quand même assez exceptionnel, assez unique.
D'accord.
Alors, on écoute ce qu'on appelle le teaser. Hein. C'est pas très joli, on va dire une bande-annonce.
«
ça m'arrive encore de rêver de la mine. Le jour où tu sentiras qu'on va te piquer ton casse-croûte, tu deviendras aussi vindicatif que moi. T'as un métier. On essaie de te l'enlever. Tu fais quoi ? Bah, tu tapes dedans, hein ?
Mais ils ont mis un courage fou, un courage incroyable. C'est impressionnant. L'ennemi aujourd'hui, c'est quoi ? C'est la politique. Ils nous écoutent pas.
Ce deuxième tour seront connus dans une heure maintenant.
Florian Philippot du Front National, arrivé la semaine dernière en tête.
La salle des congrès de la mairie de Forbach est déjà pleine.
Eh bien, en dépit de cet enjeu extrêmement fort, à peu près 4 Français sur 10 seront chez ses yeux.
Je suis là et je peux pas m'en sortir. J'ai pas le choix. Je suis là et il faut que j'y reste. Parce que dehors, c'est le chômage. C'est la galère.
Quand t'es le dernier, tu transmets plus rien. Et c'est là que tu t'aperçois que t'es le dernier. Que l'histoire a une fin.
Voilà, une immersion dans cet univers très fort et entêtant dont on sort avec difficulté. Hein. C'est difficile de reprendre le... Alors, je ne sais pas si on l'entend vraiment, enfin on comprend. Il y a cette voix de cet ancien mineur, Lucien, qui est cité à la fin. Mais sinon, au départ, on ne sait rien de lui, on sait juste que c'est un ancien mineur. Il y a donc ces photos en noir et blanc, travaillées, retravaillées, qui sont même mises en relief, qui donnent à voir, à sentir, à toucher cette mine qui pourtant est fermée, puisqu'on nous l'annonce d'entrée de jeu, hein, et pas de mystère. Et puis, ensuite, il y a une voix et une image qui bouge, qui est d'aujourd'hui, c'est cette voix de Laetitia, avec, malgré son jeune âge, des pensées d'une maturité, des mots très forts qui tressent un état des lieux. Alors, comment tout ça s'est né dans votre tête ?
En fait, je me rappelle très bien lorsque j'ai proposé ce film à France Télévisions, parce que ce film est aussi un film coproduit par France Télévisions. Lorsque j'étais rencontré le directeur de France 3, Lorraine, il m'a dit « faudrait que tu me convainques que ce film, il faut le faire, puisque si tu regardes mes armoires, j'ai plein de films sur la mine ». Et je lui dis, bah, précisément, mon film ne parle pas de la mine. C'est juste une excuse. Moi, je voulais parler d'un changement de monde. Un monde qui a changé sous nos yeux en l'espace de 10 ou 15 ans. Que j'ai voulu incarner à travers deux trajets de vie, de parcours de vie. Lucien, comme tu l'évoques, Lucien qui est un ancien mineur, mais qui a 52 ans. Et Laetitia, qui est une femme, jeune femme d'aujourd'hui, issue de ce bassin houillé de Lorraine, un tout petit territoire au nord-est de la France, qui a un parcours de vie. C'est quelqu'un qui représente la jeunesse. Alors, évidemment, personne n'est représentatif d'une catégorie d'âge, mais je voulais faire un dialogue entre un ancien mineur qui nous raconte son monde avec ses codes, avec ses valeurs, et une jeune femme qui reçoit en héritage un monde, mais qui reçoit aussi une réalité en pleine face. La réalité s'appelle la mondialisation, par exemple, appelons-la comme ça, ou globalisation, ou nouvel ordre économique, peu importe. Et pour moi, c'était intéressant de raconter qu'en peu de temps, finalement, les codes, le monde a changé. Et ces deux personnages, entre guillemets, nous permettaient de raconter ce changement de monde qui s'est opéré sous nos yeux en un temps rapide.
Ouais, aussi du coup en rappelant toutes ces valeurs qui sont portées, enfin tout ce que en fait effectivement, même si on parle pas réellement de la mine, du travail, on décrit pas ce que c'est le travail de la mine. On nous raconte, Lucien nous raconte tout ce que cette valeur, enfin tout ce que ce travail leur a donné comme valeur, parce qu'en fait derrière la difficulté, la pénibilité, la dangerosité de ce travail, les hommes étaient forcément unis, forts. Et solide et intègre. Alors bon, on en a les larmes aux yeux quand Lucien parle, même en reparlant, là, j'ai encore des frissons, parce que du coup, on se dit, oh, mais à côté de quoi on passe, pourquoi on s'est détourné de ces valeurs-là de travail qui grandissent l'homme plutôt que de le rabaisser. Alors moi, je n'avais pas du tout ce regard sur la mine. Pour moi, la mine, c'est l'exploitation de l'homme, c'est la souffrance. Et dans le discours de Lucien, c'est pas du tout vécu comme quelque chose, c'est pas du tout passif, c'est quelque chose de complètement assumé sans nier non plus la difficulté, quoi. Alors déjà, cette parole-là, alors peut-être qu'il y en a beaucoup dans les tiroirs de François Lorraine, mais moi, je ne l'avais pas entendue comme ça, aussi vibrante, aussi forte.
Il n'était pas question de faire un film passéiste et de dire qu'avant, c'était mieux. Il est clair que le monde qui a changé, c'était... Lucien, il vient d'un monde collectif, paternaliste, avec des grosses entreprises structurées. Les valeurs sont des valeurs de lutte, mais ce sont des valeurs de lutte collective, où il y avait des syndicats, où l'ennemi était désigné, où on ne tutoyait pas son patron. C'est peut-être bête ce que je dis, mais tutoyer son patron, ça veut dire que c'est ton copain. Et à l'époque, le patron, c'était pas ton copain, c'était ton ennemi, ennemi social, bien entendu. Laetitia hérite d'un monde où elle se retrouve toute seule, où on se retrouve quasiment tous, tout seul dans des petites entreprises de 10, 12 personnes. Les corps intermédiaires comme les syndicats ont disparu ou quasiment disparu. Ou alors on a une image tellement négative des syndicats qui sont quand même des forces de contre-pouvoir. Ça n'existe quasiment plus. Et tout ça disparaît en 10 ou 15 ans. C'est ça que je voulais raconter dans ce film, ce changement de monde social également.
Et malgré tout, alors ça disparaît, mais Laetitia, tout de suite, en entrée de film, dit tout cet héritage, on l'a perdu, mais il est fort, il est présent encore, et on sent que c'est quand même quelque chose qui... Alors, il y a Lucien qui nous parle, il y a Laetitia, il nous raconte complètement une autre réalité à 15 années d'intervalle. Effectivement, c'est impressionnant, on se dit, mais attends, comment on l'a vécu ça, et pourtant, comment on a survécu à ça, quoi, comment on l'a vécu aussi simplement, alors que c'est une transformation quand même de masse, quoi. Et il y a leurs discours qui sont ponctués en fait, d'antagonisme, même si vous ne le montez pas forcément comme ça, c'est la réalité. Ils se rejoignent juste sur la peinture de la société aujourd'hui, de la leur. Alors là, leur discours fait écho. Là, ils sont raccord. Je voulais dire qu'il y avait ces deux voix, mais que Laetitia, quand même, est très... Enfin, l'univers de la mine est très, très fort dans son imaginaire. Elle, malgré tout, elle a ça encore. Elle a encore en tête ces notions de lutte et de résistance. Donc, ça veut dire quand même que ce n'est pas complètement oublié, quoi.
Non, ce n'est pas oublié, parce que c'est vrai que le film, il a un goût amer. Faut pas se le cacher. Néanmoins, si on reste jusqu'au bout du film, dans le générique, il y a la dernière phrase d'Émile Zola, de Germinal, qui est une phrase pleine d'espoir. Donc je rappelle un peu, juste une petite parenthèse, Brumaire s'appelle Brumaire pour faire écho à ce cycle d'histoire industrielle qui s'achève là en 2000, qui s'est achevé en 2004, mais qui commence avec Germinal et donc l'intérêt que porte Émile Zola à la mine de charbon. Les mineurs sont un peu l'emblème de la classe ouvrière et en sont, je crois, le meilleur symbole. Moi, je tenais à terminer cette histoire avec Brumaire. Donc, c'est le mois dans le calendrier révolutionnaire. C'est le mois des brumes et des brouillards. C'est la fin, c'est l'hiver, en fait. Mais je termine quand même avec une phrase qui nous rappelle que dans les blés, il y a des semences, il y a des graines qui sont porteurs d'espoir. Ça peut être la jeunesse, ça peut être la génération qui vient. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, je raconte l'histoire des perdants de la mondialisation que tout est fichu, pas du tout. L'histoire n'est pas terminée, en fait, elle continue.
Oui, bien sûr. Et de toute façon, de faire un constat négatif, ça ne veut pas dire qu'on fait un film négatif. De toute façon, le constat, il faut le faire, puisqu'il y a une autre image qui tourne autour de ce film. On est pendant les élections, on arrive à Forbach, on a... j'arrive même plus à... Philippot, son prénom...
Florian
merci, Philippot. Qui vient d'être élu. Voilà cette menace aussi de un nouvel ennemi, quoi.
C'est-à-dire que le Front National a parfaitement compris que la sociologie de ce territoire où on est en perte de repères, ça peut être des électeurs potentiels pour ce parti qui, à mon avis, à mon sens, ne va pas les aider si un jour ce parti est au pouvoir. Ça n'a pas échappé à Florian Philippot, le stratège numéro 2 du Front National, que c'était des territoires intéressants pour aller ramasser des voix. Alors cette sociologie, c'est quoi ? Ce sont des jeunes si on parle de la jeunesse déjà, je tiens à rappeler que ce petit bout de territoire de Lorraine, c'est 40% de chômage chez les jeunes entre 15 et 24 ans. Que le revenu moyen il est à 1800 euros, alors qu'en dans tout le reste de la France, il est à 2050 euros, je crois, de mémoire, chiffre de l'INSEE. Voilà, c'est un territoire où il y a un désenchantement, une désillusion, où le plus gros parti, ce n'est pas le parti du Front National, mais bien ceux qui ne s'intéressent plus à la politique, les abstentionnistes. Et puis ensuite vient le Front National. Et c'est vrai que ce film tente aussi d'éclairer, de comprendre comment une terre ouvrière où l'on votait massivement pour des partis comme le Parti communiste, en 10, 20 ou 30 ans, bascule à l'extrême droite.
Et alors comment vous avez rencontré Laetitia ? Vous aviez déjà dans l'idée, vous avez trouvé qui d'abord ? Lucien, Laetitia ? Comment ça s'est passé ?
Ce sont deux histoires distinctes. Moi, étant journaliste et ayant travaillé pour la télévision en Lorraine notamment, J'ai vu les mineurs à l'époque de l'activité, à l'époque des grandes manifestations, encore dans les années 90. Je les ai vus manifester et c'est assez fascinant de voir cette force collective. Et à l'intérieur de ce groupe, j'ai vu un gars qui s'appelle Lucien Rezador, d'origine italienne, un Rital, comme on dit dans ma région, qui montait sur une chaise et qui allait haranguer la foule sur le carreau de la mine. Et qui donnait des instructions aux gars, comme on disait, donc aux ouvriers, aux mineurs. Et comme un seul homme, tous ces mineurs suivaient Lucien Rezador. Voilà, c'est un gars qui est capable de prendre la parole et puis de les souder pour aller combattre une cause. Laetitia, c'est autre chose. Donc Lucien Rezador, je l'ai vu depuis, ça fait 20 ans que je connais ce garçon, cet homme.
Et donc il a dit oui quand vous lui avez proposé d'être voix.
Lucien, en fait, pour la petite histoire, pour l'anecdote, je tenais parfois une caméra lorsque je filmais ces manifestations de mineurs. Et ce sont des vraies démonstrations de force. Ce sont, comme Lucien le dit lui-même, je mets entre beaucoup de guillemets, ce ne sont pas des gonzesses. C'est ce qu'il dit dans le film. Et en effet, c'est très brutal. Et donc, Lucien, en fait, les mineurs manifestaient à l'époque, lorsqu'ils allaient saccager, entre guillemets, la direction générale, par exemple, de charbonnage de France. Ça bastonnait, il y avait des bris de vitres, ça faisait du bruit, il y avait du fracas. Et les journalistes étaient à l'intérieur de ce fracas et se prenaient des coups. Et pour la petite histoire, en fait, Lucien m'a cassé un doigt. Voilà, sans faire exprès. Donc,
Et pour le remercier.
Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Lucien. Donc, c'est une histoire un peu de violence sociale, mais bon.
Mais il a cette voix qui est sûre, forte, mais il y a aussi dans sa voix beaucoup de douceur et de l'émotion qu'il ne rejette pas du tout. Et c'est quand même un super. Je trouve que c'est un super film. Il nous suit tout le long du film. Il n'apparaît juste. Enfin, on a juste sa photo au début. Enfin, on a juste un portrait de lui au départ, et ensuite on n'a plus que sa voix. Et on le quitte pas, quoi. Et il nous quitte pas. Et c'est.
Non, je tenais à ce que Lucien représente tous les mineurs. Du coup, je l'ai représenté très brièvement dans une photographie qui doit avoir une durée de 2-3 secondes, pas plus. Le temps qu'on oublie son visage, je tenais à ce qu'il représente un ensemble, un collectif, tous les mineurs. Pour Laetitia, c'est différent. Il a fallu que j'ai tenté de rencontrer des jeunes hommes, des jeunes femmes du présent, d'aujourd'hui, qui étaient. Et ce que je recherchais, c'est quelqu'un qui avait un regard lucide sur son parcours. Je ne voulais pas quelqu'un qui se masque, qui dise non, j'ai réussi, etc. Je voulais quelqu'un qui ait reçu cet héritage conscient et inconscient du monde ouvrier, du paternalisme, du fait qu'elle ne soit pas connectée au village mondialisé, au village monde, aux métropoles. Je voulais quelqu'un de ces territoires oubliés que sont ces territoires de la France qui ne sont pas du tout connectés au. Je parle ici, je sais que je suis à Toulouse, donc Toulouse est une ville monde, est une ville globalisée, mondialisée, où les flux financiers passent par ici, et donc, mais ça passe pas partout, ces flux financiers. Donc je voulais quelqu'un qui ne soit pas une victime non plus, mais je voulais quelqu'un qui soit lucide sur son parcours de vie. Et Laetitia a ses qualités. Parce que justement, elle a un parcours de vie assez difficile, assez chaotique. Elle a quitté l'école à 15 ans ou 16 ans. Elle est femme de ménage.
Elle dit elle-même que ce n'est pas glorieux, qu'elle en a honte, mais qu'elle ne peut pas faire autrement et qu'elle est frustrée. Enfin, c'est des choses qu'elle dit. Et puis, elle dit en même temps, mais je résiste.
C'est ça. Et donc là, on retrouve les valeurs du paternel, dans tous les sens du terme. On retrouve les valeurs de l'ouvrier. On retrouve les valeurs du mineur qui va combattre.
Ouais. Et c'est pour ça que là, on se dit, nous, on l'entend, on entend cette transmission et on se dit, c'est pas, ce monde, il n'est pas mort et on l'a pas complètement mis dans une boîte puisqu'il vit à travers ces personnes-là. Et c'est vrai aussi qu'on n'est pas habitué à avoir ce recul, cette jeune fille qui parle de sa situation avec un recul et qui n'est pas du tout dupe, qui explique qu'elle est dépolitisée parce que ça suffit, que là, les jeunes, enfin, tout le monde est conscient que les politiques se foutent de leur gueule. Elle parle des gens de sa condition. Mais elle le dit avec une certaine sérénité. C'est comme ça. Et peut-être qu'on se dit que s'il y a quelque chose de nouveau qui peut se profiler, eh ben, peut-être qu'elle reviendra à la politique parce qu'on sent quand même que c'est quelqu'un qui est en prise dans la réalité, qui ne dit pas « ça ne m'intéresse pas », mais on sent aussi beaucoup de souffrance quand même.
Il y a une souffrance, il y a un regard cru sur son parcours et donc elle éclaire ce parcours. Elle nous dit la politique, je n'y crois pas, et on comprend bien dans la sociologie, on l'a vu récemment, sans faire de comparaison des paraisons, mais avec le vote de Donald Trump aux États-Unis, on est dans une sorte de même sociologie, de rejet des mêmes choses, d'un monde mondialisé. On peut aller, que l'on soit à Detroit aux États-Unis ou à Forbach en Lorraine, c'est la même, je crois, sociologie. Ce sont des gens à qui les politiques n'adressent plus la parole. Ces gens-là n'existent plus. Les journalistes ne vont quasiment plus leur tendre des micros. Ce sont un peu des laissés pour compte. Et à un moment donné, ils ont une possibilité de se faire entendre. Et voter FN, par exemple. Alors, ce n'est pas le cas de Laetitia, le personnage, mais c'est le cas de beaucoup de jeunes dans cette région et partout ailleurs. Voter FN, c'est un moment prendre la parole, c'est à un moment donné exister, et c'est pas forcément un vote facho.
Vous avez été tenté, du coup, de choisir quelqu'un qui votait FN pour essayer de comprendre vous-même aussi, enfin toi-même. Je passe du vous au tu, je suis complètement incohérente. Mais est-ce que du coup ça a été une tentation, ça, à l'écriture, d'essayer de chercher quelqu'un qui représente ses électeurs?
Non, en fait, j'ai pas cherché quelqu'un qui représentait le Front National ou qui était tenté par un vote Front National. Parce que quelque part il suffisait de se baisser pour en trouver. C'est légion en Lorraine, dans cette partie-là de la Lorraine. Mais c'est vrai qu'il y a eu un travail très soigné de recherche d'une personne. Alors, je ne vais pas dire le mot personnage, mais dans un film ça devient un personnage. Quelqu'un qui soit assez emblématique, représentatif, avec toutes les réserves qui s'imposent. Il fallait j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup hésité, j'ai rencontré 20-30 jeunes, donc du coup, à force de rencontrer ces jeunes entre 20 et 30 ans, j'ai écouté leur parcours. Moi, j'étais très surpris par exemple d'une certaine forme de fatalisme. Laetitia a une forme de fatalisme, elle est dans la lutte, mais dans le fatalisme, elle est dans le complexe d'infériorité, elle a intériorisé la défaite entre guillemets du monde ouvrier également.
Tu penses que qu'en fait de garder les mines ouvertes, ça aurait changé beaucoup de choses?
C'est clair que les mines de charbon la marche du siècle n'en veut pas. Les mines de charbon sont les premières délocalisations entre guillemets, puisqu'on peut pas délocaliser une mine. Mais le charbon étant l'énergie du siècle, du 19e siècle, il y a quelque chose d'anachronique. Après, par rapport au réchauffement climatique, à la pollution, que ça, c'est très compliqué. Moi, je pense qu'on a mal préparé la fermeture de cette industrie, comme on est en train de très mal préparer la fermeture de l'industrie charbonnière partout en Europe. Puisque du charbon, il n'y en a plus en France, mais il y en a en Allemagne, il y en a en Pologne, il y en a en Espagne, il y en a dans beaucoup de pays du monde. La première matière première que l'on brûle pour créer de l'énergie, c'est le charbon. Suffit de voir les chiffres en Chine, par exemple. Donc le charbon est totalement démodé, entre guillemets, en Occident, mais en Ukraine, en Russie et en Chine, c'est une matière première qui est vraiment beaucoup, beaucoup utilisée.
Donc c'était pas la mine en soi, elle était vouée à fermer parce que c'est comme ça, c'est les temps qui changent. Mais on aurait pu faire autrement.
Je pense qu'on peut pas fermer une industrie qui a fait vivre 3 ou 4 générations sur un terrain. Là on parle de la Lorraine, mais on ne parle pas du nord de la France qui est un bassin 9 fois plus important que la région Lorraine. Donc on a sacrifié des générations entières d'ouvriers en les laissant tomber carrément. Je pense qu'on aurait pu, que les différents gouvernements auraient pu travailler ça sur plusieurs générations, penser à la fermeture de ces mines et ne pas abandonner des gens et ne pas se retrouver par exemple avec un Front National à 40 ou 50%. Je crois qu'en effet les pouvoirs publics ont une grande responsabilité dans la transition industrielle.
Alors, on discutait tout à l'heure, en préparant cette émission, de la réception de ce film. Il a fait l'objet déjà d'une séance à Forbach, peut-être, ou à côté à Forbach.
C'est ça. Donc, on a fait une avant-première qui est toujours... on l'a un peu évoqué. C'est un film un peu grinçant. C'est un film qui ne fait pas plaisir. C'est un film qui ne fait pas la promotion d'une région. Dans le sens touristique du terme. C'est un film qui évoque sans phare des vraies problématiques sociales. Donc on a projeté ce film dans un musée, le musée de la mine, donc en région Lorraine. Et c'est vrai qu'il y avait un parterre de mineurs, qui avait des descendants de mineurs, qui en effet, non, je n'ai pas eu des échos très positif, parce que les mineurs, ils ont sans doute envie qu'on parle d'une mine d'une manière beaucoup plus agréable, en disant que oui, c'était une belle époque, etc. Moi, je laisse Lucien parler, il me raconte son époque, mais je la compare à celle d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que peut-être il y a une sorte de culpabilité des mineurs, Parfois, certains me disent qu'on aurait dû se battre plus.
D'avoir lâché. Il le dit, Lucien lui-même.
Lucien lui dit, on aurait peut-être dû se battre un peu plus pour que les jeunes puissent avoir peut-être quelque chose. Donc non, l'accueil était, je le dis, il était froid.
Et sur les propos de Laetitia aussi, tu as eu des retours en...
Oui, sur les propos de Laetitia, je crois que les gens, ils ont vu le courage de, quand même de Laetitia de s'exposer sur un grand écran, de dire une vérité crue qui ne fait pas plaisir dans une Lorraine qui se meurt un peu. Alors une partie de la Lorraine qui se meurt un peu dans un territoire qui se cherche beaucoup, avec pas beaucoup d'espoir au bout pour l'instant en tout cas. Donc c'est vrai que j'ai eu des échos négatifs aussi, il y avait certains députés dans la salle, ça ne leur fait pas trop plaisir qu'on parle de manière aussi brutale de la fin d'une industrie, mais je crois que la brutalité était plutôt du côté des pouvoirs publics.
Oui, oui, c'est pas Laetitia qui l'a inventé.
Non.
Ouais. On le sent pas comme ça. Et il va refaire une tournée, là tu vas de nouveau l'accompagner en Lorraine.
Oui, alors là en janvier on va refaire une tournée. Dans plusieurs salles de cinéma. Elle n'est pas encore tout à fait dessinée, la tournée. Mais on a projeté aussi ce film dans une autre salle à Metz, qui est une salle de cinéma qui est à 30 km du bassin. Là, l'accueil a été meilleur, même si nous sommes dans la même région.
Ouais.
Mais c'est toujours douloureux de tremper sa plume là où ça fait mal.
Puis en plus, dans le musée de la mine, quoi, ça faisait peut-être beaucoup. Parce que déjà, rien que de se rendre dans le musée de la mine pour des mineurs, ça doit quand même être choquant.
C'est clair, mais voilà, donc je pense que... Bon, ils n'ont pas bien reçu le film parce qu'ils aimeraient qu'on parle autrement de leur métier. Peut-être ils sont peut-être trop amoureux de leur métier. Et ils ont un peu le syndrome du marin-pêcheur qui aimerait qu'on parle que de la mer, des dangers de la mer, de la solitude, etc., etc. Là, moi, j'ai choisi de parler du présent en comparaison avec leur monde à eux. C'est pour ça, peut-être aussi.
Et dans le début de tournée, là, donc c'était hier, tu étais à Verdun-sur-Garonne.
Oui.
Alors là, du côté du sud, ça se passe comment?
Ah ben, c'est différent parce que, en fait, comme je le disais tout à l'heure, la région de Toulouse, on est un peu chez les gagnants,
oui,
de la mondialisation.
Sûr,
c'est une région riche, il y a Airbus, il y a des ingénieurs, il y a des cadres CSP+, les gens peuvent parler l'anglais, parlent sans doute trois langues, etc. Mm-hmm. C'est tout le contraire de la région Lorraine, mais la région Lorraine fait partie de la France. Donc je pense que c'est important que pour des Toulousains ou des gens d'Occitanie, de voir qu'il y a une autre France quelque part, qu'il ne faut pas l'oublier, que la République, c'est on avance tous ensemble. On ne peut pas avancer les uns très vite et laisser les autres sur place.
Puis en plus, je te trouve un peu dur quand tu décris la Lorraine, parce que dans ton film, les images sont magnifiques. Bon, alors, bien entendu, tu as fait des photos, tu es photographe, c'est pas des photos amateurs ou d'iPhone, c'est de la belle, on est dans de la belle photo, dans de l'art. Bon, il n'empêche que toute cette création, cet univers industriel peut être aussi très beau. C'est un paysage que tu révèles, auquel tu donnes une vraie sa vraie place aussi comme la trace de l'homme, mais une belle trace.
Oui.
Puis alors après on a aussi, pardon.
Oui, non, pour moi l'industrie, c'est ça peut être poétique, c'est pas du tout antinomique. Et je trouve qu'il y a une poésie dans cette ferraille qui rouille, cette végétation qui ronge ce passé. Je trouve qu'il y a une poésie dans ces photographies. Ce que j'aurais souhaité révéler, j'espère que j'y suis parvenu. En fait, ces photographies représentent la mémoire d'un mineur. C'est pas une réalité. C'est ce qu'il pourrait y avoir dans la tête de ce mineur. En fait, c'est pour ça que j'ai beaucoup relu Proust à ce moment-là. Comment on fait un travail de mémoire, comment on retranscrit une mémoire qui, par définition, elle est impalpable. Donc la photographie, pour moi, dans ce film, était censée représenter les souvenirs de Lucien. Ce n'est pas une photographie qui décrit des lieux. C'est une photographie qui nous laisse un peu évasive sur une émotion d'un lieu.
Il y a les photos du dehors et du dedans. Et dans les photos du dehors, bon, on a quand même un contexte, on sent que c'est contemporain. Mais dans les photos de l'intérieur, on a une sorte de perte de repère historique, puisque finalement, c'est un peu toujours le même métier depuis l'ouverture des premières mines. Et justement, comme on ne s'attache pas trop aux techniques, mais surtout aux gueules, aux positions, enfin aux groupes aussi, beaucoup de photos de groupes comme ça qui sont très fortes. Bien, on est un peu, voilà, on est un peu dans ce, on flotte effectivement, on est dans ce temps suspendu et du coup, je trouve que c'est, ça me plaît beaucoup cette idée que tu as relu Proust pour travailler sur les photos de mineurs, mais en même temps, ça a tout son sens, ouais. Puis après, il y a aussi un autre travail, moi que j'ai noté, c'est aussi ce travail sur le son. J'ai vu que tu as fait appel à un musicien d'électroacoustique qui s'appelle Hervé Birolini. Birolini.
Birolini, oui.
Et comme par hasard, c'est aussi un homme, un Lorrain.
Ah, c'est pas par hasard, en fait. C'est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer dans une autre vie, entre guillemets, lorsque j'étais jeune journaliste à RTL. Et donc, du coup, ce garçon travaillait avec moi dans le son. Moi, je travaillais dans l'image et on s'était rencontrés à l'époque. Puis on s'est perdu de vue pendant 20 ans, 15 ou 20 ans. Et un jour, en écoutant France Culture, j'ai écouté une de ses œuvres et je me suis dit « Waouh, mais c'est ce garçon à qui je dois faire appel, puisque je le connais, qu'il est Lorrain, qu'il est fils d'ouvrier, qu'il est fils d'orital, comme moi je suis fils d'espagnol, qu'on a un patrimoine commun et je ne voyais personne d'autre. » Et surtout que la photographie, comme ce film est à base de photographie, il lui manquait une bande sonore. Les mines étant fermées, on ne peut plus reproduire, on ne sait plus ce qui se passe au fond, on ne peut plus y aller, on ne peut plus reproduire le son du fond de la mine. Donc il a cherché à faire, on a cherché à faire ensemble une réinterprétation de ce que pourrait être l'univers sonore de la mine. C'est ce qu'il a tenté de faire à travers une musique, une bande-son. C'est plus qu'un musicien, c'est un architecte sonore, c'est autre chose. Il a fait la bande-son et la musique à la fois. Voilà, c'est un artiste complet et il a travaillé, c'est un garçon qui a travaillé, qui connaît le film mieux que moi. Hervé Birolini a travaillé travaillé sa bande sonore avec un montage à l'image près. Donc sa musique est faite à l'image près, la note correspond à une image près.
Ouais, moi j'ai trouvé vraiment que c'était que le son avait vraiment une place aussi comme un personnage du film. Et puis du coup juste pour faire une pause maintenant qu'on boive un verre d'eau, qu'on reprenne un peu notre souffle, je lui ai pris une musique qu'il a composée à New York, ça s'appelle Swapping Substrate et on écoute du coup tout ce que peut faire Hervé Birolini.
with an important message. Hold one moment, please.
Voilà, retour sur le, au studio de Canal Sud dans Cinématoc. On a écouté Swapping Substrat. C'était donc une musique, une composition d'Hervé Birolini. Ben maintenant, on va discuter un petit peu de, ben de ce que c'est La Piampe avec Emma Farinias.
Oui.
Oui. Alors, si on va sur le site de La Piampe, on voit que c'est un regroupement de producteurs de Midi-Pyrénées. À l'époque, on était encore sur une région Midi-Pyrénées. Je ne sais pas si la Piampe va changer un peu.
Alors, c'est en cours de changement. Et, mais bon, ça prend du temps, tout ça. Parce que c'est plein de structures qui existaient avant la fusion des régions qui maintenant doivent se réorganiser, se regrouper. Et donc, la Piampe, c'est une association de producteurs. Qui se trouve donc en Midi-Pyrénées, ici à Toulouse. Et donc le métier de producteur, c'est un métier où on est quand même assez isolé, assez seul. Et l'idée de cette association, c'était de regrouper les synergies pour défendre des intérêts en commun, pour défendre le métier de producteur, qui est un métier pas toujours facile, quoi. Et finalement, très centralisé aussi à Paris. Et donc l'idée, c'est de défendre la possibilité de continuer de faire des films en région. Et bon, c'est vrai que là, principalement, dans La Piampe, ce sont des producteurs de documentaires. Quelques-uns font un peu de court-métrage. Voilà, c'est principalement du documentaire.
Parce que c'est quand même le plus simple quand on commence la production, c'est de produire des documentaires. Parce que c'est trop lourd de produire de la fiction. Je sais pas, c'est une question ou...
Ben, c'est sûr que faire un documentaire, c'est moins lourd que... Enfin, en fait, ça dépend. C'est hyper varié. Mais de toute manière, les producteurs de longs métrages et de fiction sont quand même majoritairement à Paris. Parce que faire un film, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Et du coup, il faut une assise, il faut être proche des télés, il faut être proche des financeurs, en fait, qui se trouvent quasiment tous à Paris. Et en fait, on ne se rend pas compte de ce que peut coûter un film, mais pour donner une idée, un documentaire vraiment à très petit budget, c'est dans les 90 000 euros. Et ça peut monter jusqu'à, enfin, les films qu'on voit sur Arte, sur France Télévisions, on est entre 100 et 300 000 euros. Et donc du coup, c'est des sommes qui semblent énormes, mais voilà, faire un film avec 90 000 euros, c'est pas non plus du luxe, c'est plutôt léger. Ouais. Et donc du coup, il faut avoir les financeurs qui nous permettent de faire ces films. Et donc pour comprendre la logique de production, en fait, nous, par exemple, ici en région, en fait, il faut avoir une télé pour pouvoir après déclencher un certain nombre de subventions, soit régionales, soit du CNC. Et donc, du coup, forcément, tout dépend beaucoup des diffuseurs. C'est pour ça qu'il y a cette centralisation à Paris et que ici ça semble un peu plus compliqué parce qu'il y a moins de diffuseurs à proximité en fait. Voilà.
Est-ce que du coup vous avez regroupé aussi cette force de recherche, de financement et tout ça entre, du coup est-ce que La Piampe c'est aussi une structure qui peut aller demander pour n'importe lequel des producteurs peut aller demander une coproduction? Non, c'est pas ça.
C'est vraiment chaque producteur est indépendant et fait son travail. Mais après, c'est des échanges d'informations, c'est défendre en commun des objectifs auprès des différentes institutions et c'est défendre aussi nos actions, comme par exemple là, l'idée aussi, par exemple, du mois du documentaire, c'est de montrer qu'on fait des films, c'est l'occasion. Et donc, il y a aussi ce travail de montrer qu'on existe, en fait, que les producteurs existent ici aussi.
Ouais, et que les films ne sont pas forcément, même si c'est du documentaire, ça ne traite pas forcément de questions liées à la région Midi-Pyrénées, puisque, par exemple, le film de Joseph, s'il est. il a un producteur qui est la France 3, Lorraine, mais aussi un producteur qui est basé ici, à Toulouse, qui s'appelle VO.
Oui, comme l'a bien dit Emma, un film documentaire, d'abord c'est du cinéma, que ce soit documentaire ou fiction. Eh bien, pour qu'un film soit bien réalisé dans tous les sens du terme, il faut des moyens, il faut des gens qui travaillent, il faut des professionnels, il faut des ingénieurs du son. Et ces gens-là, il faut les payer correctement. Du coup, il faut des financements à la source. C'est pour ça qu'aujourd'hui, de plus en plus, on fait appel à des coproductions, qu'elles soient internationales, à l'échelle européenne, ou qu'elles soient intramuros en France. Du coup, par exemple, pour Brumaire, qui était un film ambitieux techniquement, on a fait appel à une musique originale, on a retravaillé des photos avec des systèmes de machines 3D, etc. Tout cela requiert beaucoup de savoir-faire, beaucoup de technicité qui coûte de l'argent. Du coup, il faut aller chercher de l'argent là où on peut en trouver. Et c'est vrai que je suis lorrain, le film nous parle de la région Lorraine, mais le film a aussi une connotation universelle. Je crois que tout le monde recherche aussi une sorte qu'on puisse parler, s'adresser à tout le monde à la fois. Ce n'est pas un film régionaliste, c'est un film qui parle d'une région, mais qui peut rebondir parfaitement sur la région Midi-Pyrénées ou Occitanie, comme on dit.
Ouais, alors, et même toi, tu me disais que, puisque tu es espagnol, tu as la nationalité espagnole, eh bien, Brumaire est ton troisième film, tu as été invité depuis le début, à chaque film, tu es invité à Cinespagna. Ça veut bien dire que... Et ce sont trois documentaires
aussi. C'est ça. Ouais. C'est vrai que des documentaires qui ne touchent pas forcément à l'Espagne. Brumaire, ça ne touche pas à l'Espagne. Sauf qu'en Espagne, il y a des mineurs. Sauf qu'en Espagne, la mondialisation les affecte également. Donc, il y a un effet miroir qu'on peut très bien faire ressortir à l'écran. Et ça les intéresse aussi au premier chef, je pense.
Et donc à la Piampe, vous avez justement proposé un plateau comme ça. Enfin, vous avez proposé aux salles de cinéma, pendant le mois du doc, de recevoir un réalisateur qui vient accompagner son film. C'est la Piampe qui l'a proposé.
Alors non, ça s'est pas passé comme ça. C'est un partenariat avec une autre association d'ici qui s'appelle la Créampe et qui a un réseau de salles de cinéma à RSC. En Midi-Pyrénées, Aquitaine et Limousin, et qui eux font un gros travail justement à travers ce réseau en fait
d'animation de salles
ouais. et du coup d'accompagnement de sortie de certains films et donc du coup dans le cadre de Brumaire et c'était le cas aussi pour Box Me Baby qui
Nicolas Gaillard est venu qu'on a reçu
Donc en fait ils proposent ces films là à leur réseau et après les salles choisissent les films qui les intéressent et donc du coup dans ce cadre là Brumaire a une belle petite vie en région et Box Me Baby aussi et puis bon bah c'est important d'aller parler avec le public aussi des films qui sont faits parce que c'est leur donner vie aussi et partager ces expériences-là.
Et donc, ça veut dire que la Piampe a une reconnaissance déjà auprès, en tout cas, de cette association qui travaille pour des salles. Mais sinon, les salles vous connaissent ?
Bah, peu, en fait. Et justement, c'est pour ça aussi qu'on a essayé de faire le maximum d'événements autour du mois du documentaire. Et en fait, en Midi-Pyrénées, c'était comme ça avant. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais en fait, on est plein de petites associations comme ça. On essaie de s'entraider. Donc, c'est le cas de la Créampe, c'est le cas de la Piampe. On essaie de s'entraider pour valoriser ce cinéma qu'on fait ici. Mmh. Et donc, avec la Créampe, ça fait déjà quelques années qu'on travaille. Cette année, on a créé un partenariat aussi avec Ombre Blanche, à la librairie, où ils ont créé une vitrine autour de la production régionale. Et donc, c'est important parce que c'est le lien avec le public qui vient acheter des DVD et qui voit que, ah oui, c'est vrai, en fait... Ici aussi, on fait des films. Ah bon, mais qu'est-ce que ça peut être ? Et voilà, c'est comme ça que petit à petit, on essaye de parler de nos films, voilà.
Parce qu'en fait, les salles programment auprès de programmateurs ou directement auprès de distributeurs, mais pas du tout, elles vont pas du tout voir les producteurs. Parce qu'entre vous et la salle, il y a aussi tout un ensemble d'interlocuteurs, souvent les distributeurs. Et est-ce que je sais pas, tous les producteurs au sein de la Piamp n'ont pas forcément tous un distributeur quand ils sortent un film?
Non. Après ça, c'est chaque producteur qui choisit la vie de son film, en fait, du film qu'il produit. Certains ont des distributeurs, d'autres non, parce que en premier, ils font ce film donc qui est diffusé à la télévision, et ensuite tout ce travail de diffusion du film, c'est un travail qui prend énormément de temps, et donc du coup, souvent il se fait à moitié en fait.
Ouais.
Et après, le problème avec les salles, c'est que maintenant qu'elles sont passées au numérique, elles sont très sollicitées. Et donc, du coup, si chacun va voir la salle en disant « Ah, moi, j'ai un film qui est chouette », tout ça, on a peu de chances de vraiment accéder. Enfin, voilà, c'est trop pour ces salles, ce que je comprends complètement. Et du coup, avec ce travail qui est intéressant avec la Créamp, c'est que la Créamp fait déjà un premier choix qui est suivi par les salles de son réseau. Mmh. Et du coup, les salles du réseau font confiance à leur choix et voilà, sont un peu orientées en fonction de ce qu'ils choisissent de proposer.
Ouais, alors moi, je peux comprendre, hein, pour connaître l'exploitation, ce métier-là de travailler dans une salle de cinéma, mais je me dis, quel dommage quand même que les salles ne soient pas plus proches des producteurs, parce qu'il n'y a rien de plus simple pour passer un film que d'aller voir directement l'exploitant de la salle et de dire, moi j'ai ce film, je peux faire venir, enfin, on peut venir, je te propose une soirée, on peut faire avec l'équipe du film. C'est quand même passionnant pour le spectateur de savoir comment se fait un film ou de rencontrer des gens qui montent des projets comme ça. Et ça peut pas se faire. Alors moi, je comprends. La semaine dernière, enfin, je recevais Jo Lubé qui est en train de monter, enfin, qui venait me parler du festival du film de Muret et qui me disait qu'en gros, c'est quand elle a abandonné l'exploitation de la salle de Muret qu'elle a commencé à faire un festival avec son équipe, parce que l'exploitation, ça prend tellement de temps, mais c'est quand même la fonction essentielle d'un exploitant, c'est de voir les films, quoi.
Et oui, ouais.
Donc je crois que c'est important qu'ils vous rencontrent, ouais, les producteurs. Mmh. Parce que là, vous êtes quand même au sein de la Piamp, on peut les citer, hein. Argan Production, Bâton Rouge, Synergie Production, La Cumave 65, Géorama TV, Le Gros Indien, Les Films du Sud, les productions Anamorphose, non mais je... les Zooms Verts, Mira Productions, Noki, les VO Productions.
Ouais, et oui, ce que tu dis par rapport aux salles de cinéma, en fait, c'est un travail de longue haleine. Et en fait, maintenant, à force, justement, parce qu'eux non plus ne connaissent pas, en fait, finalement, les producteurs. Et à force de créer ce genre d'événement, il y a un lien qui se crée. Mmh. Et forcément, entre deux mails qui vont arriver en proposant deux films, ce que je comprends complètement, l'exploitant, il va plutôt ouvrir celui où ça lui dit quelque chose, il a déjà vu la personne, entendu parler de la personne. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est important de faire ce travail, mais c'est un travail vraiment de longue haleine. Et on espère qu'il va continuer. Voilà.
Et toi, tu fais ce boulot-là en plus de ton propre travail de réalisatrice et de productrice?
Alors, moi, je suis un peu de multicasquette. Je fais ce travail de promotion auprès de la Piamp. Avant tout parce que tout ce qui regroupe mes différentes casquettes, c'est de défendre le cinéma en région. Parce que j'ai commencé à travailler à Paris et je ne trouve pas juste que tout se passe là-bas. Il y a beaucoup de richesses ici et c'est quelque chose qui doit être vu et connu. Et donc, du coup, je fais ce travail de promotion à la Piamp. Je réalise des documentaires aussi. Et je suis active dans l'association des Zooms Verts, pour laquelle, du coup, j'accompagne des projets en production et on essaye de mettre en place des accompagnements à l'écriture d'auteurs, parce que c'est des étapes qui sont très difficiles et solitaires.
C'est un rôle de producteur, ça.
C'est un rôle de producteur, mais qui finalement n'est pas toujours pris par le producteur, parce que accompagner à l'écriture, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et donc, du coup... c'est important de se créer des réseaux ou des collectifs justement pour avoir des regards extérieurs, parce que quand on écrit un film, on est hyper seul et seul face à des millions de doutes. Et donc, du coup, c'est important de partager ces doutes. Juste les exprimer, ça soulage.
Voilà. Tu acquiesces, Joseph ?
Oui, tout à fait. Je crois que le travail est difficile de l'écriture, de penser. Et c'est vrai que c'est à la fois un bonheur de pouvoir avoir la chance de s'exprimer, et c'est aussi une difficulté, une souffrance.
Toi, tu as été accompagné ?
Moi, je travaille souvent avec une jeune femme qui s'appelle Laetitia Giroux, qui est réalisatrice également. Et on a travaillé ensemble sur de nombreux films. Il est intéressant d'avoir de porter deux regards, justement, sur deux regards d'auteur sur une même réalité.
Oui. Bien, c'est le moment de clôturer cette émission. Alors, je remercie beaucoup Emma, puisque nous avons, grâce à toi, fait deux plateaux que moi j'ai trouvé passionnants. J'ai découvert, j'ai découvert le travail de Joseph et puis de Nicolas Gaillard, qu'on a reçu il y a 15 jours. Du coup, je vais rappeler leur date, puisque vous pouvez découvrir Brumaire, c'est ce soir à Mourinx, c'est un petit peu long, il faut partir dans pas longtemps et prendre le pique-nique. À Haute-Rive le 19 novembre, à Decazeville le 20 novembre et à Tournefeuil, à Utopia Tournefeuille, lundi 21. Box Me Baby, c'est ce soir aussi à Castelginest au Castellia. Le 22 à Orthez au Pixel. Le 24 à Verdun-sur-Garonne. Là, c'est à la MJC qui fait salle de cinéma. Le 25 novembre, c'est au Central Colomiers. Le 28 à Lille-Jourdain. Et le 29, il termine à Muret. Il va être bien fatigué, Nicolas.
Et du coup, je rajoute juste que l'exposition de Nicolas Gaillard, justement, lié au film Box Me Baby, est toujours visible à la librairie Ombre Blanche au Café Côté Cour.
Merci beaucoup, merci Joseph et merci Emma.
Et merci à toi.
Je pense qu'on aura l'occasion de reparler de la Piampe à Cinématogue, puisque bon, on est quand même dans la même ville et on s'intéresse aux mêmes questions.